Jean-Marie Apostolides, bonsoir.
Bonsoir.
Ma première question, quel est l'enjeu de cette biographie sur Guy Debord ?
L'enjeu me semble simple et peut-être ambitieux. Il consistait à mieux connaître Guy Debord. Ce n'est pas le même enjeu que pour n'importe quel écrivain. Il y a sans doute des écrivains où il n'est pas important de connaître leur vie et ça n'apporte pas énormément à la connaissance de l'écrivain. Il vient de sortir il y a un mois et demi, deux mois, une magnifique biographie de Lévi-Strauss par Emmanuel Loyer. Elle parle à peine de l'homme, mais elle parle beaucoup des idées et du temps dans lequel les idées ont été classées. Dans le cas de Debord, c'est très différent. Debord a insisté toute sa vie sur le critère qui lui semblait le plus important pour juger un homme et surtout pour juger un penseur et un écrivain. Et ce critère, c'était la praxis en termes marxistes. Mais comme en même temps, pour lui, la véritable révolution, c'était la révolution de la vie quotidienne, donc en conséquence, pour mieux juger la pensée de quelqu'un, et donc la pensée de Debord, il est essentiel de connaître la vie réelle des gens et la vie quotidienne des gens. Or, dans le cas de Debord, malgré 4 ou peut-être même 5 biographies, sa vie demeurait mystérieuse. Elle n'est éclairée donc ni par les biographies, ni par son œuvre même. Et pourtant, toutes ses œuvres, même les plus abstraites, ont une dimension autobiographique. Mais évidemment, elle est légendaire, elle est mythifiée. Alors, je me suis senti un petit peu devant une tâche qui m'a semblé d'autant plus stimulante que depuis 3 ou 4 ans, des archives avaient vu le jour dans un certain nombre de lieux, à la BNF, en Hollande, mais surtout aux États-Unis. Et donc, il m'a semblé approprié de m'atteler à cette tâche pour un auteur que je connaissais depuis longtemps et que je pratiquais depuis longtemps.
Oui, comme vous l'écrivez, Debord est un homme qui n'a cessé d'affirmer de son vivant que la valeur d'une théorie se trouvait dans l'accord entre les idées émises et l'existence réelle de celui qui les énonçait.
Tout à fait. Et en un sens, la question que je me suis posée et que je lui ai posée à lui par-delà la mort, c'était « Debord, dis-nous comment tu as vécu véritablement ». Des informations avaient transpiré sur son existence. Je suis moi-même, dans ma vie privée, proche de sa première épouse, Michel Bernstein, proche de son frère, Patrick Labaste, et à travers eux, les choses que je savais sur Debord me montraient qu'il n'y avait pas véritablement de rapport entre la façon dont il avait construit sa vie et sa vie réelle. Alors j'ai voulu simplement en savoir davantage et creuser un petit peu sans impudeur, sans voyeurisme, mais d'un autre côté, d'une façon sereine pour savoir véritablement comment il avait vécu.
Il y a, du coup, Jean-Marie Apostolides, à la lecture de votre livre « Debord le naufrageur », une dichotomie entre la légende que nous pouvions avoir de Guy Debord, écrite beaucoup par lui-même aussi et par son entourage, et ce que vous énoncez. Ce que vous énoncez, en plus, est archivé, est documenté, donc est, on va dire, véritable.
C'est certain. Et je dois vous dire que moi-même, tout en ayant au départ de mon travail un certain nombre d'informations sur l'homme, j'ai quand même eu de très nombreuses surprises. Je ne m'attendais pas du tout à ce décalage très grand entre ce qu'il avait écrit sur lui et la façon dont il a vécu réellement. Il m'a semblé, c'est une conclusion peut-être un peu pessimiste que j'ai faite à la fin de mon travail, il m'a semblé qu'il avait énormément dissimulé sa vie et qu'il avait construit un personnage d'une façon systématique en empêchant réellement qu'on sache qui il avait été.
Oui, vous dites même en conclusion, passer de la légende à l'histoire.
Ça me semble une nécessité pour tous les hommes célèbres, parce que si on veut connaître vraiment leur pensée, ce qui a été leur pensée et leur pratique, et surtout si on veut s'en servir, si on veut continuer à dialoguer avec eux, il est peut-être meilleur, dans l'environnement culturel qui est le nôtre, d'aborder quelqu'un par son histoire vraie plutôt que par sa légende. Je crois qu'on est marqué par le sens historique depuis le 19e siècle. Je nie pas l'importance des légendes, des croyances, des mythifications, des créations légendaires qui sont très belles. Les religions ont fondé leur importance là-dessus, mais il me semble que dans le domaine de la réflexion, des essais, de la philosophie, si vous voulez, ou des sciences sociales, il faut dépasser la légende et aller vers l'histoire.
Vous accolez le terme de naufrageur à Debord. Pourquoi ?
Eh bien, c'est un terme d'abord qu'il a utilisé lui-même. Et je me suis efforcé dans ce livre, non pas de plaquer sur l'œuvre et la vie de Guy Debord des concepts que j'aurais empruntés à des sciences sociales, mettons la politique, la sociologie, ou à la psychanalyse, qui est importante dans le cadre d'une biographie, mais plutôt de tirer de l'œuvre même de Debord les notions, les concepts qui me permettraient d'éclairer et sa vie et son travail. Le terme de naufrageur est un de ceux-là. Il l'a d'abord utilisé dans son œuvre pour parler d'un de ses anciens amis, Ivan Steglov. Mais en fait, très souvent, quand il parle d'Ivan Steglov, à travers le personnage d'Ivan qu'il a reconstruit, c'est de lui dont il parle. Et j'ai trouvé dans une de ses lettres un passage que je cite en exergue de mon livre, où il se définit lui-même véritablement comme un naufrageur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un naufrageur ? Bon, c'est pas un terme qu'on utilise tous les jours, hein. Immédiatement dans notre esprit, ça, on associe le terme à quelqu'un qui fait des naufrages, qui crée des naufrages. Il y a une légende dans l'ancienne France, dans l'histoire de la marine entre, disons, le XVIIe siècle et le XVIIIe ou même peut-être XIXe, toute une légende des naufrageurs qui seraient des individus méchants, pleins de mauvaises intentions, et qui la nuit se promènent sur les côtes et surtout les côtes auxquelles les navires ne peuvent pas aborder, en mettant des lanternes, en les secouant ou parfois en les mettant sur les épaules de leurs ânes, pour tromper les navires et pour leur faire croire qu'ils peuvent en toute sécurité aborder à tel ou tel endroit. Et évidemment, le navire se fracasse sur les rochers et le naufrageur lui-même se sert dans ce qu'il y a à l'intérieur des navires et permet à la population environnante de se servir aussi. Ça, c'est la définition première du naufrageur. Et je l'ai préféré au terme révolutionnaire parce que si Debord s'est voulu un révolutionnaire, il a pour ainsi dire jamais parlé du type de société qu'il aimerait après la Révolution. Et ce qui l'intéressait dans la Révolution, c'était le naufrage, c'est l'effondrement d'une civilisation. Il a été fasciné par l'apocalypse, par l'effondrement des civilisations, comme l'effondrement ou le naufrage d'un navire. Le deuxième élément, c'est que quand on fouille dans le terme de naufrageur et quand on cherche l'histoire des naufrageurs, eh bien, on arrive très vite à la conclusion que, au fond, les naufrageurs n'ont jamais existé. C'est une légende. Que les populations côtières aient été pillées, les navires qui s'échouaient sur leurs rives. Ça, c'est un phénomène très connu et d'ailleurs reconnu dans le droit international. C'est une pratique qui existait. Mais que des gens aient trompé des navires pour les faire s'échouer, donc qu'il y ait eu littéralement des naufrageurs, ça n'a probablement jamais existé. En tout cas, on n'en a jamais trouvé de traces réelles, et les gens qui ont écrit sur les naufrageurs n'ont jamais pu le prouver. Donc on entre déjà dans la légende. Et on entre dans une zone qui se situe entre l'histoire, entre la mythologie et la légende. Or, c'est cette zone que Debord a explorée. Il a voulu nous faire croire qu'il était un révolutionnaire ou qu'il vivait de telle ou telle façon ou qu'il avait eu une importance monumentale dans mai 68. Et quand on fouille un petit peu tout ça, ben, on s'aperçoit que c'est une légende qu'il a construite. Alors, le terme naufrageur m'a semblé adéquat parce que, au fond, l'espace réel de Debord, c'est un peu le même que celui d'un personnage extraordinaire de la littérature mondiale, qui est Don Quichotte. C'est-à-dire, il est entre la vérité et la légende, entre la littérature et la pratique réelle, entre la dissimulation et la folie, par exemple. Et donc, le terme de naufrageur me permettait, en un sens, dès le titre, d'aller jusque-là. C'est la raison pour laquelle je l'ai gardé.
Don Quichotte, qui est une des figures tutélaires de Debord.
Tout à fait. Tout à fait. Debord s'est construit, si nous avons le temps, on y reviendra, mais il s'est construit dès son enfance pour se sentir plus fort, pour se sentir à la hauteur de la masculinité qu'il imaginait. Il s'est senti toujours attiré par des figures prises dans la littérature, il a lu très jeune, ou dans le cinéma qu'il aimait beaucoup, ou dans les magazines, et sa vie a été une constante association de son être réel et d'être fictif qui lui permettait de mieux se situer et de s'agrandir en un sens. Vous me direz que probablement tous les enfants, tous les êtres humains, pour devenir plus grands, se projettent sur des figures fictives, bien sûr. Mais ils les intériorisent et ils ne confondent pas leur être réel avec ces figures de fiction. Dans le cas de Debord, ce mécanisme de confusion des deux, qui est seulement typique de la petite enfance, s'est prolongé extrêmement longtemps, pendant toute sa vie d'adulte, et il a intériorisé des personnages de l'histoire bizarres, extraordinaires, fascinants pour lui, disons le roi Louis II de Bavière, l'empereur Néron par exemple, mais aussi des personnages de penseurs, Marx, Tocqueville aussi, Clausewitz, pour se créer ce qu'il appelle lui-même, parce que c'est pas moi qui ai inventé le terme, pour se créer lui-même un moi mythologique, c'est-à-dire une personnalité grand format qui allait impressionner les autres et qui allait mettre Debord tout de suite au niveau des plus grands héros, ce qu'il a voulu être dès son enfance. Dès son enfance, il a voulu être un personnage important, fameux, d'une grandeur plus que les gens qui étaient autour de lui. Alors à la fin de sa vie, quand il réfléchit, quand il voit son parcours et qu'il découvre ou il le redécouvre parce qu'il l'a lu assez jeune, mais il redécouvre Don Quichotte vers la fin de sa vie, eh bien c'est le personnage auquel il a tendance à s'identifier parce que justement Don Quichotte est dans cette zone entre la fiction et la réalité. Alors Debord s'en est servi pour parler de ses derniers amours qui étaient probablement une grande rêverie comme l'amour de Don Quichotte pour Dulcinea du Toboso, mais en même temps, au-delà de ces aventures amoureuses qui avaient eu plus ou moins de succès, je crois qu'à travers le personnage de Don Quichotte, il a voulu s'affirmer une dernière fois comme un personnage héroïque, comme un personnage seul, comme un personnage qui voulait défendre les idées d'hier, parce que Debord, en un sens, est un anti-moderne, et en même temps, reconnaître en même temps, à travers la figure de Don Quichotte, que finalement il avait échoué et il s'était battu toute sa vie contre des moulins à vent.
Et des chimères.
Et des chimères, bien sûr.
L'usage de son moi mythologique, il s'en sert pour assurer sa prédominance dans les différents groupes dont il était le chef.
Oui, oui, tout à fait, parce que comme ça, bon, il se confronte parfois à des individus de grande force. Je pense au peintre Asgeirjorn ou à l'architecte Constant, et qui sont des individus que De Bord ne peut pas manipuler comme ça, et qui lui donne une vraie réplique et qui permettent à l'international situationniste, surtout dans la première partie de ce mouvement, c'est-à-dire entre 57 et 62, qui permettent donc au situationnisme de se développer, d'être un lieu d'échange, en un sens d'égalité presque entre différentes personnalités très fortes. Mais De Bord parvient assez rapidement par un goût de la stratégie assez pointu à éliminer toutes ces fortes personnalités et petit à petit il s'entoure de gens plus jeunes, plus faibles, qu'il admire comme un personnage extraordinaire et qu'il admire d'autant plus que De Bord ne leur donne pas accès à la connaissance de ce qu'était le mouvement situationniste dans la première période. Donc, il apparaît comme un personnage absolument hors norme aux yeux de jeunes gens qui sont légitimement fascinés par lui, parce que il avait quand même une grande intelligence, une grande culture, et surtout une sûreté où il leur indiquait le chemin à suivre. Alors à ce moment-là, la clé de cette fascination, c'est ce moi mythologique que ces jeunes disciples ne peuvent pas reconstruire parce qu'ils ne savent pas comment De Bord l'a fait. Mais peut-être je me suis moi autorisé à aller un petit peu plus loin en poussant peut-être l'analyse un petit peu plus loin et en présentant le cas des gens qui l'entouraient comme simplement des expressions objectives de ce moi mythologique. C'est-à-dire, à un certain moment, quand De Bord a été le seul maître de l'international situationniste, mettons entre 63 et la dissolution en 72, eh bien, les autres n'avaient plus totalement d'existence réelle à ses yeux. Ils étaient des expressions objectivées de ses pulsions à lui, donc il pouvait les manipuler comme il voulait, de la façon dont il voulait. Il a toujours eu un certain dédain, disons-le, pour les autres. Michel Bernstein m'a dit, par exemple, ça je le dis pas dans le livre, mais je vous le dis à vous à la radio, Michel Bernstein m'a dit que quand il avait 20 ans ou 21 ans, il lui avait dit un jour, à 30 ans, j'aurai des domestiques. Et il les a eus. C'était les membres de l'international situationniste. Et puis, une autre confidence qu'elle m'a faite, elle me disait, certains matins, on se levait et on disait, tiens, qui est-ce qu'on va renvoyer de l'IS aujourd'hui ? Donc, sans motif aucun, simplement pour jouer avec les autres êtres humains comme s'ils étaient des pions sur un échiquier dont De Bord était le maître. Donc j'ai poussé l'interprétation jusqu'à dire, au fond, les autres font aussi partie de son moi mythologique, ils n'ont pas d'existence réelle à ses yeux, et De Bord peut se permettre de les manipuler comme il veut. Alors tout ça, évidemment, me semble en contradiction avec les idéaux révolutionnaires et démocratiques qu'il y avait, en théorie du moins, à la source du groupe situationniste.
Parce que vous avez exprimé, Jean-Marie Apostolides, le fait que vous ayez été surpris par vos recherches en fouillant dans ce moi mythologique. Quelles informations avez-vous relevées qui vous ont le plus scandalisé ?
Alors, il y a des choses que je savais depuis 1968, parce que De Bord s'en est vanté auprès de tous ses camarades, et même bien avant 68, mais c'est seulement à partir de 68 que j'ai eu un contact indirect avec lui, puisque moi je ne l'ai jamais rencontré, bien évidemment. Ce phénomène, c'est la relation incestueuse que Debord a eue avec sa sœur pendant toute sa vie. Mais je n'en connaissais pas le détail. On pouvait donc imaginer que c'était une relation, bon, peut-être un petit peu choquante, mais acceptée par la sœur et vécue d'une façon finalement peut-être transgressive, mais heureuse. Il n'en a rien été. Ça m'a beaucoup choqué en fouillant cette histoire avec son frère. Je me suis aperçu que Debord forçait sa sœur à avoir une relation sexuelle avec lui, alors que elle, quand elle venait le voir, elle cherchait plutôt un réconfort, un grand frère génial qui pouvait l'aider, et pas du tout une relation sexuelle qu'elle avait d'ailleurs l'obligation de partager avec la seconde épouse de Debord, Alice Becquerot. Alors, tout cet élément de sexualité à l'égard de sa sœur m'a quand même, disons-le, choqué, et pourtant je fais partie d'une génération qui a connu la libération sexuelle, donc qui ne se choque pas facilement de la vie que les gens ont pu mener. Un autre élément m'a choqué, c'est quand j'ai découvert le rapport de Debord avec les femmes de ses compagnons de combat. C'est-à-dire, en un sens, Debord s'est conduit à plusieurs occasions comme un prédateur, obligeant ses camarades de combat à lui céder leurs partenaires. Et ses partenaires étaient évidemment partagés entre le couple de maîtres, c'est-à-dire entre Guy et Alice. Là aussi, c'est des comportements qui m'ont semblé beaucoup plus près des hordes primitives telles que Freud a pu les inventer dans Totem et Tabou que des comportements de libération sexuelle dans un mouvement d'avant-garde. Il n'y avait aucune libération là-dedans. Et puis, d'autres éléments sont venus s'ajouter à ça. Par exemple, quand j'ai découvert les motifs réels du renvoi et de l'humiliation de René Rizel en 1972, tous les documents, même à Amsterdam, avaient disparu, mais je les ai trouvés à l'université Yale. Et là aussi, on ne peut pas dire que Guy Debord ait eu un comportement de grandeur, au contraire, pour dire le moins. Tout ce qui se rapporte, enfin, un autre sujet que la sexualité, tout ce qui se rapporte aussi à l'argent, dans le cas de Guy Debord, est à regarder à la fois de près et à un petit côté malsain. Et le comportement de Debord, non seulement à l'égard de la famille Lebovici, Sir Gérard Lebovici et son épouse Floriana, mais surtout après le décès de monsieur et madame Lebovici, le comportement de Debord avec les enfants de Gérard Lebovici et de Floriana, qu'il prétendait envers lesquels il prétendait être un grand frère, et les manipulations qu'il a faites pour essayer de détourner leur héritage à son bénéfice à lui, tout ça, je dois vous le dire, ça m'a choqué. Ça n'enlève peut-être rien à l'œuvre, mais je suis pas sûr que ça enlève rien à l'œuvre. En tout cas, ça m'a choqué.
J'aimerais que nous terminions cet entretien avec les dernières phrases de votre conclusion, et je vous demanderai de les commenter. Je vous cite. « En effet, si une nouvelle génération veut les conserver comme une figure vivante de son panthéon intellectuel plutôt que comme une statue de pierre, c'est-à-dire si elle veut faire de Debord un écrivain avec qui elle peut dialoguer, une appréhension lucide de son travail et de sa vie constitue une étape nécessaire à laquelle le présent volume a voulu contribuer. »
Oui, tout à fait. Je suis pas du tout prêt à jeter Debord aux oubliettes, loin de là. Mais je considère que la très grande majorité des livres qui lui ont été consacrés lui donnent un statut qui ne me semble pas juste. Donc, ce n'est pas mon travail à moi, mais c'est le travail de la nouvelle génération, de reprendre les œuvres de Debord, d'essayer d'en garder ce qu'ils peuvent en garder, de lui accorder une place différente dans l'histoire de la pensée française, peut-être celle d'un moraliste, comme les moralistes du XVIIe et du XVIIIe, mettons La Rochefoucauld ou Vauvernargues, mais de lui trouver une place afin de ne pas tout rejeter. Et pour trouver cette place, eh bien, l'étape d'une meilleure connaissance de ce qu'il a été véritablement dans sa vie me semble une nécessité.
Merci beaucoup, Jean-Marie Apostolides.
Merci à vous de m'avoir interviewé.